Vous souhaitez communiquer avec l'équipe de Dessine-moi un dimanche? Écrivez-nous sur dessine-moi@radio-canada.ca.
Pierre Flynn, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous présenter aujourd'hui une des chansons les plus reprises et interprétées de l'histoire de la chanson française.
Oui.
C'est pas rien. Une chanson qui a 60 ans cette année.
Oui, reprise par tellement de monde que c'est hallucinant. Juliette Gréco, Sting, Serge Lama, Céline Dion, Tom Jones, U2, David Bowie, Sinatra, Madonna, Barbara Streisand. Ça finit pas, c'est fou. C'est une des grandes chansons d'amour de l'histoire. Mais est-ce vraiment une chanson d'amour?
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
C'est en fait le premier grand succès de Jacques Brel, qui l'a pas écrit en fait.
Oui, il l'a écrit.
C'est lui?
C'est pas
son... C'était pas son pianiste?
Ah, ben oui. Brel essayait toutes sortes d'affaires. Il y avait Ne me quitte pas comme leitmotiv, puis il essayait différentes mélodies, puis il n'arrivait pas à cerner sa chanson. Et il commençait à être accompagné par Gérard Joannest.
Ouais.
Et c'est lui qui l'a un peu sorti du pétrin en suggérant quelques changements, quelques accords.
Mm.
Il n'est pas signataire comme compositeur de la chanson.
Okay, d'accord.
Simplement parce qu'à l'époque, il n'était pas encore membre de la société de droit d'auteur, la SACEM. Il ne pouvait pas techniquement s'inscrire. Alors, il a peut-être perdu beaucoup d'argent,
ouais,
mais il s'est repris parce qu'il a signé beaucoup d'autres titres de Brel. Tu sais.
Cette chanson-là, elle se retrouvait sur un disque qui a été important, on peut dire, dans la carrière de Brel?
Oui, c'est un disque
c'est vraiment
de 1959. Il y a là-dessus la Valsamilitan, la Valsamilitan plutôt, les Flamandes. C'est le disque où Jacques... commence à atteindre... Hein? Oh, c'est mon chum, mon vieux chum, bien sûr, Jacques, que j'ai bien connu à l'époque.
Oui, c'est vrai. Oui, en tout cas, vous avez l'air de bien le connaître.
On a fait les 400 coups ensemble. Mais bref, c'est l'album où Jacques Brel atteint une certaine maturité artistique et, comme vous dites, où il atteint aussi un certain succès. Il y a eu « Tant qu'on a que l'amour » qui a été un succès qui datait de 1955-1956, mais c'est avec cet album qu'il s'affirme vraiment.
Là, vous avez fouillé.
J'ai fouillé.
On veut savoir ce qu'il y a en arrière.
J'ai deux pages devant moi.
On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas c'est quoi l'histoire de cette chanson.
Ben,
on ne sait pas
écoute,
qu'est-ce qui est arrivé.
J'ai quasiment envie de m'excuser auprès des gens que cette chronique pourrait heurter, auprès de gens pour qui cette chanson est sacrée. Mais moi, l'histoire m'a captivé et je n'ai pas pu résister. Retrouvons Jacques Brel en quelques années avant 59, 57, 58. Ça commence à mieux aller pour lui, comme je disais. Il commence à avoir plus de spectacles, mais il est encore en train de se chercher, de changer, de se trouver. Il est encore en train d'essayer de se débarrasser d'un petit côté boy scout, un petit côté sentimentaliste, un petit côté prêchi-prêcha. Certains de ses amis vont même lui reprocher une certaine bondieuserie.
Oh.
C'est étonnant quand on sait ce qu'il est devenu après, un anticlérical forcené. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il était proche des mouvements chrétiens de gauche. Il faisait beaucoup de spectacles pour la jeunesse ouvrière chrétienne, des spectacles pour la jeunesse étudiante catholique, etc.
Ouais, c'est tellement étonnant.
Et c'est étonnant, mais c'est tout à fait son droit. Et ses amis avaient aussi le droit de le taquiner. Et ils le taquinaient comme Brel, qu'il l'a baptisé l'abbé Brel. Pas Brel, Brassens. Brassens,
ah, c'est vrai.
Taquine Brel, l'abbé Brel. Allez, arrête tes bonjuseries, l'abbé Brel. Ses amis au bar, ils disent, allez Jacques, tu prendrais une bénédictine ou une chartreuse. Évidemment, des alcools faits par des moines. Alors, ça devait commencer à l'énerver un petit peu. En plus de ça, tu as Catherine Sauvage dans son entourage et Suzanne Gabriello, dont on va parler, qui commence à lui dire, écoute, Jacques, il faut que tu évolues, là. Il faut que tu avances, là. Les prêchis prêchant, puis il faut que tu fasses une chanson d'adulte. Pourquoi pas des chansons d'amour? Ça, c'est Suzanne Gabriello qui lui suggère ça. Brel a toujours eu un peu de misère à écrire des chansons d'amour. C'est Serge Lama qui fait remarquer qu'il en a écrit qu'une poignée, finalement. La chanson des vieux amants, qui est une splendeur, mais qui est une chanson aussi de désamour. Orly, où il est à distance, il observe. Peut-être une de ses plus belles chansons d'amour, comme dit Lama, c'est Jojo, qui a faite pour son meilleur ami au moment de son décès. Revenons à Suzanne Gabriello. Qui est-elle? C'est une chanteuse, fantaisiste, humoriste, qui fait des tournées avec Brel. Brel, à cette époque-là, il est avec Jacques Canetti, le grand découvreur de Félix, de Brel, de Gainsbourg, de tant d'autres. Et Canetti organise des tournées collectives où il y a plusieurs artistes. Et c'est là qu'il rencontre Suzanne Gabriello, qui est en tournée avec lui. Ils tombent en amour. Ils vont vivre une histoire qui est plus qu'une passade, qui va durer un bon 5-6 ans, de 55 à 61. Donc, 2 ans après Ne me quitte pas. C'est une histoire difficile. Brel a une double vie. Il y a une vie, en guillemets, bourgeoise, à Bruxelles, avec épouse et enfant. Et il y a sa vie de rocker sur la route, puis à Paris, où il y a des maîtresses, où il y a des chums, où il se couvre jamais avant 5 heures du matin, où il boit un char de bière, etc. Our kind of guy.
C'est bizarre.
C'est bizarre. mais la relation est trouble avec Suzanne. Il se sent coupable vis-à-vis de son épouse. Alors, il essaie de laisser Suzanne, il lui revient. À un moment donné, elle apprend qu'il a un troisième enfant, qu'il vient d'avoir un troisième enfant. Ça la bouleverse. Elle va tenter de se suicider. On pourrait croire que tout s'arrête là, mais non, ça va se poursuivre encore quelques années. Donc, c'est vraiment dans ce climat tendu, dans ce climat tourmenté, que Brel écrit « Ne me quitte pas ». Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. C'est extrême. Mmh. Et même avant qu'il sorte la toune, il y a des amis qui sont mal à l'aise avec ça. Ils lui disent, j'aime pas ça, cette façon de s'humilier. C'est rare qu'à l'époque, un homme se mettait dans cette position d'extrême vulnérabilité. Édith Piaf dira, un homme ne devrait pas chanter des trucs comme ça.
C'est assez dur, ça.
Tu sais, son gérant même, Jacques Canetti, lui dit, tu devrais peut-être la confier à une chanteuse, cette chanson-là. Oublie pas qu'on est dans une autre époque. Effectivement, il va la féminiser et il va l'offrir à Suzanne Langlois, chanteuse qui va la sortir presque en même temps que lui. Mais il y tient. Il assume la chanson. Et peut-être parce qu'il est sensible à toutes ces critiques-là, pour se protéger, peut-être par un peu par machisme, il va commencer à parler d'un malentendu. Il écrit « Ne me quitte pas » n'est pas une chanson d'amour, mais un hymne à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier.
Ah, il le dit.
Il le dit.
Lui-même.
Ben, à moins que ses biographes mentent.
Non,
je sais que ça peut faire plaisir aux femmes qui en déduisent que c'est une chanson d'amour. Ça les réconforte. Je comprends ça. À un moment donné, dans un débat avec des étudiants, ça brasse un peu, il fait le matamore un peu. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce pédé qui pleure pour une gonzesse? Il dira, c'est l'histoire d'un con et d'un raté. Ça n'a rien à voir avec une femme. Pourtant, à Suzanne, il dit, selon elle, « J'espère que tu réalises à quel point je t'aime pour t'écrire que je serai l'ombre de ton ombre. » Hey, c'est quelque chose. Est-ce qu'il renie la chanson pour autant? En 61, il la chante à l'Olympia. En 64, il la chante pas. Ni en 66. Mais il va la reprendre.
Ah, il arrête pendant un moment.
Il arrête. Il l'arrête, je pense qu'il la chantera plus.
Mais pour un auteur-compositeur comme vous, là, est-ce que ça inspire une réflexion particulière, ce genre de chanson-là, ou cette chanson-là en particulier, qui a l'air d'avoir une histoire tellement étrange?
Ben,
est-ce qu'on peut renier une chanson?
Ben voilà la question. Est-ce qu'un artiste peut se dire, justement, c'est un malentendu, t'as pas compris ma chanson? Est-ce qu'il peut décider de l'émotion que cette chanson-là va provoquer chez l'autre? Même si c'est très différent de ce qui était son intention. Est-ce que ceci est une chanson d'amour ou non? Tu sais, en entrevue, Brel était cabotin. Hein, puis c'est pas... C'est assez fréquent qu'un auteur-compositeur veuille brouiller les pistes et pas trop être explicite, tu vois.
Pourquoi il voulait plus la faire en spectacle? Le malaise que ça suscitait?
Je sais pas. Je peux pas me mettre à sa place. Lama dit carrément, il a renié cette chanson. Moi, je suis pas si sûr, puisqu'en 72, il la reprend sur un disque où il réenregistre ses grands succès. Et même que l'album s'appelle « Ne me quitte pas ». Alors, tu sais, chose certaine, en tout cas pour moi, c'est une chanson sur un sentiment amoureux, ça c'est indéniable, exacerbé par la peur, la terreur de se faire quitter, de perdre l'autre. Et ça fait partie de la vie, puis on peut pas s'empêcher.
Mais ça fait partie des séparations aussi, de la peine d'amour. Vouloir devenir l'ombre de son ombre, l'ombre de son chien. Je veux dire, on l'a tous ressenti un moment ou un autre dans notre vie, ça.
Je crois, en tout cas, plusieurs d'entre nous. Et c'est pour ça que cette chanson-là, malgré toutes les dénégations de Brel, continue à nous remuer, puis à nous
déranger. Mais c'est une autre époque. De toute évidence, c'est la chanson d'une autre époque où l'homme pouvait pas se permettre d'être... de révéler ses faiblesses.
Et certains ont parlé de cette chanson-là comme une chanson révolutionnaire dans un contexte français plutôt macho où, comme disait Piaf, un homme ne parle pas de ces choses-là. T'sais.
Puis dans tous ceux qui l'ont, parmi tous ceux qui l'ont interprété, il y a cette version qui est absolument merveilleuse.
Écoute, pour finir sur une note plus souriante, Jacques Brel avait arrêté de chanter depuis des années. Il vivait aux Marquises avec sa dernière compagne, Madeleine Bamy. C'est elle qui raconte ça. Et il s'amusait à chanter « Ne me quitte pas » en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en imitant Nina Simone, qui, dans son français indéchiffrable, en fait peut-être une des plus belles reprises.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Alors, Pierre, c'était Nina Simone, bien entendu. Et puis, je veux juste rappeler que vous allez être au Palais Montcalm à Québec les 29 et 30 novembre prochains.
En solo.
Ouais. Oui. Vous n'allez pas chanter « Ne me quitte pas ».
Vous me donnez des idées.
Salut, merci.
Merci
à la prochaine.
À vous.
Merci.
À te regarder, danser et sourire. À t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.